Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, bienvenue pour cette 60e émission. Pourquoi vous rigolez là? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pauline vient de se faire agresser par le casque, mais c'était violent.
Ah,
c'était très fort.
Ah oh, bah écoute, on va le virer ce casque alors s'il est pas sympa. Alors je disais, je reprends 60e émission sur les religions, la création du monde, la naissance des dieux. Très beau thème, salut Héloïse.
Salut tout le monde.
On n'avait pas beaucoup parlé de ça, je vais revenir avec toi après le temps que tu digères.
Non, mais non, tout va bien. Ah. Donc c'est la 60e et ça sera la 100e de l'Instant Sport bientôt, non, c'est ça?
Lundi.
Ok.
Grosse surprise en perspective, je n'en parle pas, mais ça va être énorme lundi. Salut Valérie.
Et salut.
Comment ça va?
Eh bien très très bien.
Tu as été contente de lire des livres sur ce thème?
Ben, bizarrement, oui. Et très très enchantée, enjouée, et il faudra peut-être que pour la 100e on revienne sur ce thème.
C'est sûr.
Voilà.
Ouais. Popo, salut.
Salut.
Toi aussi, tu dois être contente.
Ah oui, j'ai lu deux livres super chouettes, donc impeccable.
Oh ben tiens, on a tous lu des livres chouettes, moi aussi. Toi aussi, Valérie.
Ouais. Toi aussi, Ludo.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Super. Un plus que l'autre, mais ils étaient très bien.
Mm-hmm. Donc, qui dit religion ne dit pas forcément barbant, catéchisme, etc.
Non, parce que ça peut être aussi mythologie.
C'est ça.
Et la mythologie est très intéressante.
N'est-il pas?
Qui commence, Valérie? Toi qui fais nom de la tête en disant oui des yeux.
Alors non, je ne faisais pas nom de la tête, je faisais des étirements de mes cervicales, mais si ça a été pris pour un nom...
Ouais, ça c'est à cause de ta robe, elle est trop serrée, non?
Exactement, c'est pas une Minerve.
C'est la Minerve. Ah, c'est pas une Minerve.
Non, c'est pas une Minerve.
Très bien.
C'est une très belle robe.
C'est un col roulé. Le col roulé qui avait disparu, qui était à la mode dans les années 80 et qui revient maintenant grâce à Valérie dans les rues de Mende.
Exactement, donc allez chez Pluriel, vous trouverez des robes à col roulé façon Minerve des années 80, ce qui me laisse le temps d'ouvrir
faisons de la pub.
Mes notes et de vous parler d'un livre qui est absolument un grand coup de cœur, mais un très 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 gros coup de cœur.
Ouh.
Un livre magnifique qui, Héloïse, je suis désolée, va rester chez moi, ne reviendra pas à la lorgnette. Donc
peux lui dire au revoir.
Tu peux lui dire au revoir et tu peux en recommander parce qu'il est vraiment, et le recommander, il est vraiment fabuleux. Ce livre s'appelle Le Chant des Pierres, donc c'est un grand livre magnifiquement illustré et c'est parfait puisque l'histoire est fabuleuse et les illustrations sont fabuleuses. Donc, c'est un livre de Pascal Folliot, qui est un conteur ô combien reconnu parmi ses semblables. On avait déjà parlé de Pascal Folliot quand on avait parlé de contes il y a 2 ou 3 ans sur ses contes des arts martiaux. Et c'est quelqu'un qui a aussi été énormément inspiré sur tous les contes, sur tout ce qui est indien. Mais quand je dis indien, c'est pas d'Inde, mais c'est les indiens peau rouge, Sioux, Iroquois. Et en l'occurrence, donc, ce livre, c'est un conte qui est illustré, qui s'appelle Le Chant des Pierres, qui raconte l'histoire donc, d'une fratrie donc, dont tout le clan n'existe plus. On ne sait pas, on n'a pas l'explication du pourquoi, du comment il n'y a plus de clan, de parents, d'oncles, de cousins. C'est une sœur avec avec ses 5 frères qui habitent dans un tipi, dans un paysage majestueux.
Quelle époque ?
Il n'y a pas d'époque.
D'accord.
Il n'y a pas d'époque.
Est-ce qu'ils ont la télé ?
Ils n'ont pas la télé, non.
Est-ce qu'ils ont un smartphone ?
Non, ils s'habillent avec des piques de porc épic, pour te situer la date.
Qui n'avait pas disparu encore.
Ok. Voilà. Donc, la jeune fille donc, s'occupe de ses oncles. Justement, elle leur fabrique les vêtements pour aller chasser, les bijoux, les choses comme ça. Et un soir, donc, un des premiers frères ne rentre pas. Les autres frères partent à sa recherche et un deuxième ne rentre pas. Et le lendemain, les frères repartent à la recherche des deux frères perdus. Ils ne rentrent qu'à deux et ainsi de suite. La jeune fille se retrouve toute seule sans ses frères. Et elle part donc faire en haut d'une colline pour appeler les dieux pour retrouver justement ses frères. Et au retour de ces quatre jours de prière, elle tombe sur une sorte de caillou sur lequel elle bute. Elle pense que c'est une tunka, une pierre sacrée qui porte chance. Et cette pierre, elle la prend avec elle. Sauf qu'elle doit traverser une rivière. Donc elle se dit, tiens, mais je vais la mettre dans ma bouche pour traverser la rivière, pour ne pas la perdre. Sauf qu'elle elle perd l'équilibre et avale cette tunka. Et en avalant cette tunka, il y a la sagesse éternelle qui est rentrée en elle. Wow. Voilà, toute la sagesse du monde.
Boum,
qui est
trop
en
cool,
elle.
Quoi.
Quatre jours plus tard, elle met au monde un enfant.
Un enfant Pierre.
Non, son enfant.
Elle le nomme Pierre.
Un fils qu'elle appelle Inyan Okshila, l'enfant de la pierre. Voilà.
Et oui.
Et oui. Et donc, du coup, cet enfant, il grandit auprès de sa mère. Et quand il est en âge de poser des questions, il demande à qui sont tous les habits qui pendent dans le tipi. Elle raconte donc l'histoire de ses oncles qui ont disparu, qui sont ses frères à la mère, qui ont tous disparu les uns après les autres. Et l'enfant, bien sûr, Tonka Oxila, Inyan Oxila, décide de partir à la recherche de ses oncles. Et il va faire la rencontre d'une sorcière.
Ah.
Voilà, sorcière qu'il arrivera à vaincre. Et
oh, dis pas tout, Valérie.
Bah si, parce que c'est important.
Redis tout, alors.
Voilà. Mais je vais pas dire tout, je vais m'arrêter
de
après.
De toute façon, tu vas tous les acheter, donc il y en aura plus.
Exactement.
En vente, tu peux raconter la fin de l'histoire.
C'est ça, non, je vais pas spoiler la fin.
Est-ce qu'il a un pouvoir particulier, cet enfant?
Pour l'instant, en fait, il a le pouvoir d'entendre ce que disent les pierres. Et justement, quand il rentre dans le tipi de cette sorcière, les pierres le mettent en garde, lui disent « Attention, prends garde à cet être maléfique ». Et il arrive à Oxir, la sorcière, et il retrouve les corps morts de ses oncles. Et en fait, les pierres lui indiquent comment ramener à la vie et comment guérir les corps de ses oncles. Et elles lui font faire des incantations, notamment brûler énormément de médecine à l'intérieur du tipi. Et ça crée énormément de vapeur et ça crée énormément de choses et les oncles reviennent à la vie. Voilà, là je vais m'arrêter là de l'histoire, mais c'est puisqu'on en était sur le sème.
Tu as tout raconté.
Non, parce qu'il reste encore quelque chose. Et en fait, il y a un rituel, un rituel dans les peuples amérindiens qui est encore énormément pratiqué, c'est le rituel des huttes de sudation. En fait, c'est une cérémonie donc thérapeutique et spirituelle qui est faite par ces Indiens quand tu as un problème médical. Tu vas dans une hutte et c'est un peu comme un hammam en fait. Mais ça a été donc créé par les Indiens. Et donc grâce à ce conte, on découvre l'origine de cette hutte de sudation donc, qui est pratiquée par les peuples amérindiens. Voilà.
D'accord. Quel rapport avec le thème là?
Ah ben si, on est quand même sur la création.
Je pense qu'on se fait arnaquer, Popo.
Non. On est quand même sur les créations.
Qu'est-ce qu'elle veut, Valérie? Hein, t'as vu?
Ah mais attendez, j'ai choisi le même jour que vous le livre. Hein.
Ah oui. D'accord, très bien.
Donc on est quand même sur la création de ce peuple, hein, puisqu'on n'a pas l'historique du peuple. Hein, le peuple né à nos yeux avec une femme et les oncles. L'enfant de la pierre est né de la tonka. Que la mère a avalé. Donc, on est quand même sur la création.
D'accord.
Et le fils fait des offrandes aux 4, 5, 6, aux six pôles, c'est-à-dire nord, sud, ouest, est, et son père, le ciel, et son père, la terre. Pardon. Voilà, donc il y a quand même cette terre qui est la mer, et voilà, mais qui là, par contre, est sur des noms indiens. Voilà. Et donc, on est quand même sur l'origine du monde, puisqu'après, tout repart. De là.
Ok, très bien.
Voilà.
Merci.
Et c'est un livre qui, voilà, les couleurs sont vives, sont magnifiques. C'est, il nous transporte.
Il ne faut pas se tromper entre le nom de l'auteur et la maison d'édition.
Non, puisque le nom de l'auteur, c'est Pascal Folio. Le nom
Mais ce
de
n'est pas chez Folio.
Non, c'est chez Cipango.
Cipango. Et il ne faut pas demander un livre de Pascal Cipango chez Folio, sinon ça ne marche pas.
Non, par contre, si on dit je veux le fabuleux livre Le Chant des Pierres chez Héloïse.
Dont a parlé Valérie pendant l'émission Par le bout de la lorgnette.
Voilà, ouais. Elle saura.
Et en tant que conteuse, c'est un conte que tu aimerais raconter?
Bah, justement, je pense que je vais essayer de me l'approprier.
Elle
essayer
va faire
de relire
celle qu'il a écrit.
Du tout. Non, parce
on
que
sait comment elle marche.
C'est un conte, l'auteur, là, Pascal Folio, c'est un conte que lui a raconté William Camus, qui est un conteur d'origine iroquoise. Hein, donc, qui lui-même lui a raconté cette légende. Enfin, voilà, donc c'est pas une vraie légende, c'est pas une invention. Voilà, c'est pas une invention. Après, chacun le ressort à sa forme.
Merci
voilà.
Valérie.
Voilà.
Allez, qui veut prendre la suite?
Ben moi, je vais parler d'un conteur. Alors, je peux peut-être y aller.
Allez, complètement. Vas-y. Ouais, on a le lien.
Mais oui, en plus justement, je me suis dit que c'était peut-être pas un livre pour moi, que ça aurait plutôt été un livre pour toi, Valérie, puisque effectivement, ça parle d'un conteur. Ce conteur, en fait, on le rencontre lorsque il est trouvé par trois femmes. Dans une rivière, dans le lit d'une rivière, dérivant au pôle Nord. Et donc, c'est trois femmes, Première Neige, Roseau de Rivière et Aile de Mouette. Je voulais les dire parce que je les trouvais très chouettes, ces noms. Vont trouver cet enfant et vont pas réussir à se mettre d'accord sur qui doit le garder. Elles veulent absolument que ce soit une des trois, mais elles ne se mettent pas d'accord. Donc, elles vont voir l'homme médecine pour qu'il les aide à prendre une décision. Et évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le partager en trois. Voilà, donc en trois petits garçons différents. Et finalement, chaque petit garçon est un peu incomplet. Au bout de pas mal d'années, sentant un peu la tristesse de leurs enfants, en fait, à l'âge de 13 ans, elles vont les rassembler et n'en faire plus qu'un parce que à chacun, il manque un morceau. Et puis finalement, une fois qu'on a de nouveau un seul petit garçon, ce petit garçon va se rendre compte qu'il lui manque toujours un petit morceau. Et ce que l'homme médecine va lui apprendre, c'est que quand il l'a séparé, un petit bout de son âme s'est échappé et il ne sait pas où il est allé. Et donc notre petit garçon va partir en quête de son âme. Il va traverser les mers, les océans, les terres, et il va rencontrer des tas de peuples qui vont lui apprendre leurs histoires sur l'origine du monde, sur d'où ils viennent. Et lui-même, le petit garçon, va raconter les origines de son propre peuple. Et du coup, c'est des tas d'histoires dans une histoire. C'est assez incroyablement fait comme... Alors, j'ai pas précisé, c'est un roman graphique. C'est une...
Oui, parce qu'on savait pas.
Ouais, c'est une grosse bande dessinée, en fait. Et on se perd jamais, en fait. Et on a plein de petits épisodes, plein d'histoires dans les histoires. Voilà, il va rencontrer un peuple qui va lui raconter l'histoire de sa naissance, de son apparition. Et dans cette histoire, il va y avoir une autre histoire, quelqu'un qui parle de l'origine du monde. Et finalement, ce dont on va se rendre compte et qui est assez étonnant dans ce livre, c'est que tous les mythes sont liés. En fait, l'auteur, donc, qui s'appelle Isabelle Greenberg, lit énormément de mythes, de contes. Elle s'est inspirée très largement de tas d'influences. La mythologie grecque, elle a puisé dans l'Ancien Testament. On retrouve des épisodes de l'Odyssée, des contes populaires du monde entier, hein, vraiment un peu partout, de Scandinave. On croit deviner Pinocchio à un moment. Enfin, voilà, c'est très, très, très riche. Et finalement, tout pointe quand même vers l'existence d'un dieu, alors que elle représente une espèce d'homme aigle. Voilà, tout droit de sortie de son imagination, qui est absolument débordante, qui est ultra riche. Mais voilà, tout va vers un peu la même chose. Cet homme aigle, il y a quelqu'un qui fait l'idiot devant moi et c'est très dur de rester concentré sur mon homme aigle et
montrer son dieu.
Non, je fais pas l'idiot, je montrais. Par rapport à ce que tu dis, ça rejoint un des deuxièmes livres que je vous présenterai.
Et du coup, oui, l'homme aigle qui serait le dieu, enfin le seul dieu qui serait à l'origine de tous ces mythes, à l'origine de
tous
les peuples.
Oui, un petit peu, voilà, il y a cette idée-là un peu derrière. Et en fait, voilà, on se retrouve avec tout un tas d'histoires sur l'origine du monde, l'origine des hommes et toutes ces petites histoires qu'on connaît déjà et qu'elle a vraiment enrichies et qu'elle a racontées avec talent. En plus, pour le coup, le dessin est très original. Il y a même une petite naïveté un peu qu'on retrouve dans les contes traditionnels, je trouve un peu... il y a très peu de couleurs, c'est surtout du noir et blanc et puis des petites touches de couleurs toujours bien réfléchi et qui vont toujours
et
un
toujours
peu avec
couleurs qui font très naturel du
oui.
coup c'est vrai
ouais. Ouais, ouais 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 et donc c'est ouais c'est un assez beau livre et c'est une pour le c'est un vrai on appelle ça un roman graphique et je trouve que ça a à la fois une richesse dans le texte et à la fois dans le dans l'illustration et c'est vraiment une œuvre d'art pour moi parce que c'est très riche dans le dessin et dans le texte et c'est d'une grande qualité. Si vous voulez voir un peu le travail de Isabelle Greenberg, elle a un blog qui est très sympa où elle publie notamment des photos de passages de planches de ce bouquin-là qu'elle a réalisé en 3D, en papier empilé en 3D, et ça donne un truc incroyable. Enfin, c'est très chouette ce qu'elle fait. C'est un vrai style et c'est vraiment à découvrir. Allez-y.
Super. Et c'est une auteure qui était sélectionnée à Angoulême cette année pour son nouvel album qui s'appelle Les Nuits de Héros, toujours base mythologique, base de contes, etc.
Très bien.
Et tu dirais à partir de quel âge, pardon?
C'est pas forcément tout. Je dirais quand même assez jeune, dans les peut-être 12-13 ans. Après, est-ce que. Je pense pas qu'ils vont tout saisir, mais il y a cet aspect conte qui va sûrement leur plaire, je pense, et qui vont. Mais voilà, ils vont passer à côté de certaines choses, mais comme nous d'ailleurs, peut-être, comme moi-même, je suis passée peut-être à côté de certaines choses. Mais oui, je dirais 12-13 ans peut-être. C'est plutôt pour adultes, mais je pense que c'est accessible pour des jeunes.
Elle appelle ça encyclopédie, mais c'est tu peux lire petit morceau par petit morceau au hasard ou il vaut quand même
non,
mieux.
Non, tu te perds. Il ouais. faut lire dans l'ordre. Elle le dit hein, derrière le lecteur, ce livre n'est pas une vraie encyclopédie.
Ah mensonge, voilà. Calomnie.
Elle le dit tout de suite derrière. Et bon, il y a d'excellentes critiques du Time Magazine, du Guardian derrière. Ils ne mentent pas.
Et maintenant, 48 FM.
Voilà, maintenant, 48 FM confirme. C'est un
elle
très bon livre.
Elle est d'où, cette auteure?
Elle est anglaise.
Anglaise.
Ouais.
Greenberg.
Greenberg.
Tu oui. connais bien, toi, la Greenberg.
La Greenberg.
Mais le samedi soir. merci, Popo. Allez, moi, j'ai parlé de quelqu'un qui est connu aussi, qui s'appelle Luc Ferry.
C'est le Luc Ferry.
C'est le Luc Ferry. Et ouais, t'as vu ça un peu.
On avait dit pas de livre politique.
Et oui.
C'est quoi ce choix, Ludo?
Alors, c'est dessiné par Clotilde Bruno. Ah. C'est La naissance des dieux. Alors, Luc Ferry, tout le monde le connaît, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale, de la Recherche dans le gouvernement Raffarin de 2002 à 2004. Connu notamment pour avoir fait adopter un texte sur la laïcité à l'école et l'interdiction de signes religieux ostensibles à l'école aussi. Vous le saviez.
Mais oui. Par contre, en librairie, on a le droit de mettre des signes ostensibles.
On a le droit de parler de religion
on
en librairie.
D'accord.
Voilà, mais
et
parce qu'il
connu aussi pour sa coupe de cheveux, pardon.
Voilà, parce qu'il nous explique pourquoi. Parce que pour lui, les philosophes grecs reprenaient à leur compte une partie de cet héritage religieux, mais aussi qu'ils modifient une nouvelle forme de pensée, la pensée rationnelle, par rapport à cet héritage religieux des Grecs. Voilà, c'est pour ça qu'il se permet d'en parler.
Sinon, il n'aurait pas.
Enfin, c'est ce que j'ai
et
cru
c'est comme
comprendre.
Ça qu'il le justifie, voilà.
Voilà. Ça lui permet un peu de parler de laïcité aussi, parce que je vais l'évoquer. Il y a la BD, et après, il y a quelques cahiers d'explications au final. La naissance des dieux, c'est la collection La sagesse des mythes chez Glénat. Donc, dans cette collection, au-delà de ce livre, on retrouve l'Iliade, Prométhée et la porte de Pandore, Thésée le Minotaure, Jason et la toison d'or.
Jason.
Jason. Non, c'est Jason. Jason et la toison d'or. Jason au camping de Morondin. Tu n'as pas vu ça dans Caméra Café?
Non.
Le fils, il s'appelle Jason et oui. Il est allé en camping à Morondin.
Ah bon?
Il faut revoir les épisodes, c'est énorme. Hein.
J'ai un voisin qui s'appelle Jason, mais pas Jason.
Non, Jason. Ouais. Persée, Gorgone, Méduse, Héraclès, l'Odyssée ou encore Antigone. Alors, en préambule, Luc Ferry nous explique vouloir retranscrire les mythes grecs en bande dessinée strictement respectueuse des textes fondateurs originels et enrichis de cahiers supplémentaires qui analysent la signification philosophique et l'héritage culturel de chaque mythe. Oui, Valérie.
Bah, c'est Luc Ferry qui a fait toutes les BD que tu as citées?
Les textes.
Ah oui,
ouais.
D'accord. Okay.
Vu que c'est un philosophe, il a dit, ben voilà, la naissance des dieux, pour qu'on soit au plus près de la vérité et des textes originels, ben je vais écrire l'histoire.
D'accord, mais de tout ce que tu as cité, Jason et les Jasonotes, tout ça, c'est Luc Ferry aussi?
Oui, c'est Luc Ferry.
Oui, c'est d'accord. Lui, ouais,
ah
c'est
d'accord,
sa collection.
Je ne savais
en fait,
pas si prolifique.
Oui, oui.
D'accord. Ok.
Alors, et donc, il rajoute des cahiers complémentaires à la fin. Et donc, je t'arrête là, mon cher Luc, car les compléments, du moins pour ce livre, s'arrêtent à 6 pages, avec beaucoup de peintures, des thèmes développés par l'auteur intéressant, mais sans plus, on voit pas trop le rapport avec l'histoire qu'on vient de lire. Alors, la bande dessinée, par contre, est une bonne porte d'entrée aux adolescents qui veulent connaître la mythologie grecque, hein, même s'il y a quand même des raccourcis dans l'histoire, moi qui aime beaucoup cette mythologie qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, la naissance du monde avec Gaïa la Terre et Uranos le ciel, qui viennent du néant, qui s'accouplent pour donner naissance aux titans, aux cyclopes et aux sans-bras. Alors, parmi les titans, il y a Cronos qui délivre ses frères emprisonnés dans le ventre de Gaïa pour combattre leur père Uranos qui les avait enfermés. Donc ça, c'est récurrent, hein, dans la mythologie grecque, on combat son père. Et comme l'histoire se répète d'ailleurs, Cronos enferme de nouveau ses frères, les sans-bras et les cyclopes. Il garde que les titans. Il épouse sa sœur Rhea, qui est une titan, et comme lui avait terrassé son père, pour qu'un de ses enfants ne puisse pas à son tour se retourner contre lui, les mange quand Rhea enfante. Ouh !
Oui, mais ça c'est la mythologie grecque. Hein. C'est
mais oui, ça, c'est hein. Ça, oui. Et donc Rhea arrive quand même à cacher un de ses enfants, le dernier, qui s'appelle...
Zeus,
évidemment. Qui, au final, on répète l'histoire, va à son tour libérer les cyclopes et les sans-bras. Ses frères et ses sœurs également, qui sont dans le ventre de Cronos grâce à l'aide de Métis. Métis, qui est la déesse de...
Du fil.
C'est plus compliqué. Non. Déesse du fil, qu'est-ce que ça veut dire, ça,
non,
dire ça.
J'imaginais les tissés.
T'es déesse de quoi, toi, du fil? Ah, ouais. Mais moi, je suis du ciseau. Mais, peut-être qu'on peut faire des choses ensemble. Non, c'est la déesse de l'intelligence, de la prudence et de la ruse.
Mais toi, c'est pas ma déesse.
On devrait la connaître.
Ça, voilà. Et donc, grâce à Métis, il renverse son père. Du coup, il va donner des territoires à chacun de ses frères et sœurs qui l'ont aidé dans ce combat. Allez, les filles, on y va. On commence facilement. Que donne Zeus à Poséidon?
Facile. Un trident.
Non, en territoire. Ah. Mer et océan. Parce que s'il reste que sur la mer, Méditerranée, ouais, c'est pas très glorieux.
La mer noire,
pardon.
À Hadès, facile.
Les enfers.
Enfers. Allez, plus dur, à Déméter.
La forêt?
Non.
Déméter. C'est pas mal, pourtant.
C'est pas mal.
Déméter, non. Déméter.
T'es un peu dans le... Non, c'est Uranos.
C'est en bas, Déméter.
Uranos et Gaïa, ils les laissent gérer leur...
C'est les montagnes?
C'est le cycle des saisons et des moissons.
On n'était pas loin.
Et on finit par Héra. Attention, il y a un piège. Qu'est-ce qu'il donne à Héra?
Les hommes.
Son amour.
Ouais, c'est beau, Popo.
Son cœur.
Tu as raison. C'est beau.
Elle l'a lu déjà.
Ouais.
Je les aime bien.
Ouais. Il lui donne la chance d'être sa femme.
Ah oui.
Et d'enfanter avec lui.
Attends, c'est pas sa fille déjà?
Héra. Non, c'est sa sœur.
Sa sœur, voilà. Ah, bah, c'est plus. Oui, c'est mieux.
Bah oui, mais il y a souvent, tu vois, ils n'étaient pas nombreux à l'époque.
Ah oui.
Voilà, et l'histoire de la naissance des dieux est terminée.
Ah oui.
Mais oui, parce
que t'as pas aimé, quoi, en fait.
Si. Et après, on part. Après,
tu peux avoir chaque petite histoire.
Après, on part sur l'Iliade. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, on voit. C'est bien pour les ados, c'est ce que je vous dis. C'est quand même un peu super héros. Vous voyez les dessins.
Oui, bah c'est vrai, c'est une introduction à des histoires en fait qu'on retrouve dans beaucoup de choses, dans les films, dans la littérature contemporaine. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve partout en fait dans notre quotidien, les histoires de la mythologie. Donc,
Il les voit en sixième et dès la sixième, on peut leur faire lire. Hein. Il voit les
mythes
en
sixième.
C'est vrai, c'est pas un peu, il y a rien de sexuel.
Si, parfois, des fois c'est un peu violent, mais le fait que ce soit justifié par le côté mythologique, du coup, ça passe très bien et ça les intéresse beaucoup.
Ouais, ce livre,
ils adorent ça.
Sixième, je sais pas, mais à partir de quatrième, aucun problème.
Donc tu en as au CDI.
Oui, et les sixièmes les lisent.
Oui, mais peut-être pas la version de Luc Ferry. Hein.
Ouais, parce que Luc Ferry, il est un peu olé olé. Hein,
c'est
olé olé, connaît,
là,
hein.
Cette page. Hein.
Mais c'est les mythes hein, qui sont olé olé. Ils sont vus en sixième, donc on peut pas non plus leur dire on ne vous montre que la moitié. Hein.
Ouais, ouais.
Non,
ça fait partie du mythe.
Le plus vieux récit du monde est bourré de références sexuelles.
Ouais, absolument. Voilà.
Super.
Merci.
Donc plutôt pour ados, quand même.
Ouais, plutôt pour ados. Ouais. Allez, maintenant les jeunes sont en avance, on va dire cinquième. On va gagner une classe.
T'as tranché, ça y est.
J'ai tranché.
C'est bien. Héloïse, toi, Héloïse. Alors, dis-moi tout.
Alors, je vais parler d'un livre. J'ai eu peur en fait d'en avoir déjà parlé, mais tout le monde me dit que non, donc c'est bon. Mais j'en ai trop parlé, en fait, ce livre. J'en parle à tout le monde, je le conseille à tout le monde, et c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc, je vais en parler maintenant à
même
la radio.
Si tu en as déjà parlé.
Parlons-en.
Non, je pense que j'en ai pas parlé du tout.
On te dira si tu en as parlé.
Vous m'avez dit que non.
Mais c'était peut-être pour te piéger.
Le livre s'appelle American Gods, donc traduction Les Dieux Américains, de Neil Gaiman. J'ai lu, donc il est sorti en poche. Voilà, c'est un petit livre qui est moins de 10 euros.
C'est pas un
voilà.
petit livre. Ouais,
c'est pas un petit livre, vrai, Louise. Hein.
Un petit poche de 1000 pages.
Ouais.
Bon, la taille est petite en tout cas, voilà, c'est un poche.
Il n'est pas broché.
Il est, voilà, exactement. Bravo pour le vocabulaire.
Elle adore la pêche, Valérie.
Alors, du coup, je vais vous faire un petit résumé. Donc, le personnage principal du livre s'appelle Ombre ou Shadow, ce qui est quand même un peu plus classe en anglais. Mais donc, bref, donc Ombre est un petit malfrat qu'on retrouve au début du roman en prison. Il va bientôt sortir dans quelques jours. Il a vraiment hâte parce que sa femme lui manque. Il est très amoureux d'elle. Enfin, voilà, c'est vraiment... il a hâte de sortir. Et là, il reçoit un appel en prison qui lui dit... Pas encore. Un appel qui lui dit bah, « votre femme est décédée. Elle est décédée dans un accident de voiture avec votre meilleur ami. » Ils étaient amants. Voilà.
C'est donc... pas un sketch des inconnus, ça.
Eh ben, c'est chouette ton livre. Hein.
Ça.
On va s'éclater.
Non, c'est le début. C'est vraiment le début. Il faut que j'en parle pour la suite, en fait. Donc, ben voilà, en fait, tous ses plans de vie vont changer. Il sort de prison, mais maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il prend l'avion pour se rendre chez lui. Et il se retrouve à côté d'un type un peu bizarre, à côté de lui, voilà, un gars qui paye vraiment pas de mine, qui pue l'alcool, qui est en vieille impair, voilà. Et ce gars, en fait, lui propose un travail, il l'engage, en fait, comme homme de main, pour une somme absolument astronomique. Alors, Ombre se dit, oh là là, je sors de prison, je vais pas commencer à rentrer dans un plan comme ça. Il descend de l'avion. Donc il descend de l'avion et l'avion repart en fait avec l'homme un peu crado. D'accord. À l'intérieur. Voilà. Il loue une voiture et il s'arrête dans un bar, il en peut plus, il est triste, il est désespéré, il veut prendre une bonne cuite. Et qui retrouve à côté de lui alors qu'il devrait être dans l'avion, l'homme de l'avion. Mauvais. Voilà, l'homme en impair. Alors il y a quelque chose de très bizarre, voilà. Et donc ils boivent un peu tous les deux et Ombre se dit j'ai plus rien à perdre de ma vie, j'accepte cet argent et je vais travailler pour lui. Alors qui est cet homme qui se fait appeler voyageur ?
C'est le diable.
Moi je sais.
Pourquoi tu sais ?
Parce qu'elle l'a lu.
Parce que j'ai un livre du même auteur et du coup j'ai un peu bossé. Ah.
Alors, il faudra pas mal de temps à Ombre et pas mal de phénomènes un peu bizarres pour qu'il réalise en fait que son patron, bah, qui ne paye pas de mine, est un dieu. Et l'incarnation d'un dieu, et ce n'est pas moins, c'est Odin.
Non.
Odin, le dieu nordique, le roi des dieux nordiques. Voilà. En fait...
Qui a des cornes aussi. Comme notre héros, mais pas de la même façon.
D'accord. C'est pas faux.
Ouais.
Ombre vit dans une Amérique en fait qui est un vrai nid à Dieu. L'auteur part du principe en fait que les dieux sont arrivés en Amérique au fur et à mesure en fait des migrations, au fur et à mesure des gens, ils sont venus dans la tête des gens. Donc par exemple voilà, il y a eu une grosse immigration irlandaise aux États-Unis, mais ils ont amené leurs dieux dans leur tête avec eux. Et c'est pareil pour les Inuits, pour les Indiens, l'islam, etc. Enfin voilà, tous les dieux en fait sont arrivés aux États-Unis, ils sont là. Ils sont personnifiés comme des humains, en fait, voilà, comme Voyageur et Odin. Et le problème, c'est qu'en fait, ils commencent à être oubliés par les gens qui les ont amenés dans leur tête. C'est-à-dire que il y a des nouveaux dieux qui arrivent. Ce sont les médias, la télévision, le cinéma, Internet, etc. Et bah, quand un dieu est oublié, et ben, il disparaît, il meurt, en fait. Donc la mission de Voyageur, avec Ombre qui va l'aider, c'est d'aller recruter tous les anciens dieux aux États-Unis. Donc ils se font un road trip pas possible, ils voyagent pour aller chercher en fait tous les dieux qui sont encore là et pour essayer de, voilà, de faire une grosse bagarre, de faire une grosse guerre contre les nouveaux dieux qui eux aussi sont personnifiés.
Réhabilitation.
Voilà.
Dieu.
Excellent.
Oui, ça a l'air assez génial, ouais.
C'est absolument génial. J'ai un peu de peine à vous expliquer parce que c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et le concept est vraiment original. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça, donc c'est difficile à faire comprendre. Mais en tout cas, quand on est dedans, on peut pas s'arrêter. Il y a des côtés absolument très drôles. Il y a des personnages, mais absolument géniaux. Par exemple, mon gros coup de cœur, c'est les dieux égyptiens. notamment Anubis, qui se retrouve dans le monde, aux États-Unis, dans le monde des humains, à ouvrir un établissement de pompes funèbres, quoi, pour mettre en valeur ses talents d'embaumement, etc. Et tu retrouves
ils en ont
les
pas
dieux.
Fait un film, parce que ça paraîtrait extrêmement cinématographique.
Alors, il y a une série qui est sortie l'année dernière, ouais.
Qui s'appelle comment ?
American Gods.
Tout simplement, voilà. Comme le titre du livre.
Très bien.
Qui est très bien, mais je vous conseille quand même de lire le livre d'abord. En plus, c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Il y a plein de mythologies qui sont exploitées. La mythologie africaine, les dieux africains, par exemple. Moi, j'en connaissais pas. Inuit aussi. Enfin, voilà, c'est quand même assez passionnant. Et l'auteur est vraiment un spécialiste aussi des mythologies. Il raconte pas n'importe quoi. Donc, on apprend plein de choses. On se marre bien. Et c'est très haletant. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et effectivement, à la fin, il y a la guerre, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas.
C'est un seul tome ou c'est...
Un seul tome, ouais.
Toi qui as lu d'autres livres de cet auteur, c'est toujours pareil, basé sur la mythologie ou...
C'est toujours un peu là. Après, c'est fait de façon complètement différente. Il peut écrire des choses très féeriques, des choses... Héloïse a déjà parlé de lui... a déjà parlé de Stardust, de lui, qui est un monde de fées, de... Il est nourri de contes, légendes, de mythes, il est nourri de tout ça dans ses bouquins.
Tout à fait, ouais. Même les mythes modernes, en fait. Là, vraiment, il exploite aussi les mythes modernes de son pays, des États-Unis, et les problèmes qui en découlent aussi. Donc, c'est intéressant, en fait, de faire le parallèle dans un seul livre.
C'est peut-être lui qui a écrit Men in Black.
Non.
C'est possible, parce que les extraterrestres qui prennent la forme d'humains, avec Will Smith.
Non, moi, ça me fait penser au dessin animé Coco, où les gens qui sont plus là, si on ne pense plus à eux, ils s'éteignent petit à petit.
D'accord. Voilà. Voilà, chacun ses sources.
Chacun ses références.
Chacun ses références.
Ça peut se lire à partir de 15-16 ans, je dirais. Et c'est super.
Ça a l'air super.
Allez, génial, une pause musicale. On revient après pour la suite de la présentation de ces livres. De retour, c'est fini, on s'en est pas rendu compte.
Il a choisi la chanson la moins longue du monde.
Mais elle durait 2 minutes normalement. Oui, c'est ça, 2 minutes. Ça passe vite.
C'est ça.
Valérie, tu veux nous donner une information avant qu'on continue à parler de livres ?
Ah oui, parce
que... Ou tu veux donner l'information en parlant de ton livre ?
Non, je vais vous donner l'information parce que je voulais pas forcément la donner au départ, mais vu que tous nos livres font écho à des contes, je vous rappelle que nous sommes en plein dans le festival Contes et Rencontres et qu'il se passe des contes et des rencontres absolument fabuleuses. Et ce soir, pour ceux qui sont autour de Mende, je vous invite à aller voir Taxi Conteur à Barjac à 20h30. Ceux qui sont un peu plus aventuriers sur la route, il y a Michel Billet qui est à Chastagny à 20h30 et Lucille Duplat à Prévenchères. Je l'ai rencontrée hier soir, elle est croustillante. Et voilà.
Et c'est ton conseil du coup.
C'est mon conseil du jour vu qu'aujourd'hui il y a que ça. Mais par contre j'ai d'autres conseils pour demain, après-demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à la soirée de clôture samedi prochain
si
à Langogne.
Tu devais donner un nom.
Je dis ah non mais c'est fini pour lui. Donc bah, je dirais Lucille. Hein. Lucille.
Ouais parce que les autres compteurs ils ont pas encore commencé donc
ils
les a pas
vus. Super. Bah oui c'est pour ça je peux pas parler de gens que je connais pas.
Et ouais.
Donc Lucille bien. Ouais je dirais Lucille Duplat mais on la reverra souvent je pense.
Et tu comptes pas toi?
Si.
Quand?
Jeudi.
Ah voilà jeudi où?
Jeudi soir au Buisson.
Ah.
Ouais, pas au Buisson, pardon, je dis des bêtises. Comment ça s'appelle? Au Besson.
Au Besson.
Au Besson, après Saint-Chély, là-bas.
Il y a la Ligue Europa, je dis, je peux pas.
C'est vrai, non, mais je comprends. Ouais. Puis, en même temps, il y a un super spectacle aussi, Amande, de quelqu'un que tu as reçu, je crois, hier soir, Héloïse. Non
Gustave Akakpo?
Il me semble, non. Il n'y a pas quelque chose avec lui.
Sans doute. Et c'est quelqu'un d'absolument génial aussi. Très intéressant, très drôle et très volubile. Enfin, vous allez passer une très bonne soirée avec lui, en tout cas, si vous y allez.
À moins que vous alliez au Besson.
Voilà, oui.
À moins que vous regardiez Lyon, Villarreal ou OM Braga.
Chacun a la soirée qu'il mérite.
Eh oui, c'est ça.
Voilà.
Qui recommence, Valérie?
Oui, parce que tu parlais tout à l'heure de la chanson la plus courte du monde. Après, tu as parlé de l'origine du monde, mais je pense que tu t'es fait flouer, Ludovic, en fait.
Eh oui, mais c'est Luc Ferry, hein, c'est un politicien.
Avez-vous entendu parler déjà de Gilgamesh?
Oui,
c'est un nom qu'on a tous entendu, Gilgamesh. Moi, depuis petite,
ça
j'entendais
rien,
Oui, mais c'est normal parce que Ligue 1 Europa, peut-être, il faudrait des fois penser.
Il joue dans quel club?
Real.
Au Real, ouais.
Ouais, au Real, ils sont.
Ah, on le verra mercredi.
Et son partenaire joue au Barça. Voilà. Non, c'est Gilgamesh. Moi, c'était un nom qui m'avait toujours fait rêver, mais j'avais jamais trop entendu parler. Et c'est je l'ai découvert là, parce que j'avais jamais eu la curiosité d'aller plus loin. Gilgamesh, c'est un roi. C'était un roi qui était aux trois quarts dieu et aux trois quarts. Alors, j'avais problème avec les maths. Aux deux tiers dieu et un tiers humain. Voilà, c'est mieux. Et qui régnait donc sur la légendaire cité d'Uruk et qui, lui, par contre, a régné 2600 ans à la louche, à quelques années près, avant notre ère.
C'est où, Uruk ?
C'est la Mésopotamie.
Oui, c'est ça, en Mésopotamie. Ah. Voilà, et donc, et c'est pas des blagues. Pour une fois, je ne mens pas, je ne raconte pas des bêtises. Gilgamesh a réellement existé, puisqu'en fait, on a trouvé des tables qui racontent l'épopée donc de Gilgamesh, qui ont été trouvées donc dans la ville de Ninive, qui a été hélas détruite par des illuminés de Daesh il y a 2 ans de ça. Oh. Mais ces tablettes-là ont pu être sauvées et ont pu être traduites, et c'est ces 12 tablettes. Donc, quand on parlait de l'origine du monde, moi, quand j'entends parler de 12 tablettes, ça me fait écho aux tablettes aussi de la loi, qui est beaucoup plus contemporaine, raconte donc cette épopée de Gilgamesh. Et dans cette épopée de Gilgamesh, donc Gilgamesh était donc ce deux tiers, un tiers, mi-humain, mi-dieu. Je suis trop forte en maths. Il commençait un peu à tyranniser son peuple. Il commençait un peu à faire le malin, si je peux parler, contemporain. Et donc, les dieux se sont dit, bon, alors là, ça suffit, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour mettre en face Gilgamesh et qu'il se calme un petit peu, le jeune. Et les dieux décident de créer Enkidu. Enkidu qui a été façonné avec de l'argile. Hop, je vous rappelle que nous sommes
moins. Comme le golem.
Moins de 2600 avant notre ère. Donc, j'ai entendu parler de façon plus. Moins de 2000 ans à partir d'aujourd'hui, de quelqu'un qui aurait été façonné avec de l'argile. Là, on était moins de 2600 ans avant. Voilà, je dis ça, je dis rien.
Mais en Chine, les statuettes de l'empereur, c'est quand?
Alors, j'en ai aucune idée, mais c'est beaucoup plus récent, non?
Je ne sais pas.
Oh, c'est quand même. Ouais, je pense que c'est quand même plus récent. Mais à confirmer, chers auditeurs, si vous avez une réponse, envoyez un texte.
C'est beau dire ça, mais j'invente. J'ai une idée, mais j'invente.
Tu nous dis qu'en fait, tu penses qu'il y a beaucoup de mythes qui sont déjà très vieux qu'on connaît, qui viennent de ce mythe-là, de cette épopée-là,
qui est
absolument très
ancienne. Et notamment Gilgamesh, se découvre un nouvel homme, mi-homme, mi-animal, puisqu'il est mi-homme, mi-animal, ce Enkidu. Alors, après, il y a deux écoles. Il y a une école qui va dire que Enkidu va être l'ennemi de Gilgamesh. Et il y a une autre école qui dit que non, qu'Enkidu va être le frère d'armes de Gilgamesh. Et moi, la version que j'ai dans les mains, la version traduite en français de Jens Harder, c'est la version où Enkidu va être le partenaire de Gilgamesh. Gilgamesh donc rencontre Enkidu, ils vont après combattre Umbaba, qui était le géant qui tyrannisait un peuple dans la forêt des cèdres du Liban. Et dans ces combats se créent aussi certains pays, en fait, se dessinent certains pays qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura aussi un combat contre un taureau céleste. Et il y aura aussi un récit, donc, sur la tablette 11, du déluge, où en fait les dieux décident de mettre un déluge sur la terre pour faire un petit nettoyage. Donc comme quoi nettoyer au Karcher, ce n'était pas Sarkozy qui était à l'invention de ça, ce n'était pas Noé, c'était donc l'épopée de Gilgamesh. Voilà.
210 avant Jésus-Christ. Les statuettes de l'Empire Queen.
Et je suis à moins de 2600.
Oui, d'accord. On n'est pas au Moyen-Âge quand même. Hein.
Oui, mais bon, on n'est pas non plus... Voilà, donc c'était... c'était
mais la vente.
J'invente pas. J'avoue. Non, Pauline, d'accord. Je veux dire, pour une fois que j'invente pas, que je dis des vraies choses. Donc voilà, donc cette épopée, donc ça c'était pour l'histoire. Et on a retrouvé les 12 tablettes qui racontent l'histoire de Gilgamesh, qui ont été retrouvées, qui ont été traduites. Et il y en a une notamment qui est au British Museum à Londres. Et il y a énormément de représentations de cette époque, de Gilgamesh et de cette épopée, qui ont été gravées dans la pierre façon bas-relief. Et c'est comme des statues, mais à plat. Voilà. Et là, en fait, la BD, l'auteur a fait tout son roman graphique de cette façon. C'est que chaque image, en fait, est une représentation du bas-relief, tablette par tablette. Donc, il y a la tablette 1, tablette 2, tablette 3.
Mais donc, les tablettes, en fait, ce sont des dessins et
non,
non
les tablettes,
une écriture.
C'est des écritures. Enfin, c'est des écritures traduites. Ouais. Mais en plus de ces tablettes, il y a eu des représentations historiques, des illustrations, en fait. C'est comme tu as un texte sur tablette et on fait des illustrations à partir de ça. Donc là, tout le livre qui est lourd est fait à partir donc de ces bas-reliefs, en fait. Et l'auteur donc a été sur place, donc à Mésopotamie, donc il était en plein justement territoire de Daesh, hein, c'était a dessiné son storyboard, en fait, était que des dessins de ces bas-reliefs.
C'est intéressant, ouais,
pour donner l'histoire. Et c'est par contre c'est très très dur à lire parce que notre œil est pas habitué à ces dessins là. Et ça fait pas assez beaucoup d'émotions, mais c'est quelque chose vraiment de nouveau. Le texte est brut, et quand tout à l'heure on disait que l'origine du monde, elle est là, elle est ancienne, on découvre déjà des prostituées, on découvre déjà le sentiment d'amour, on découvre la haine, enfin on découvre tous les sentiments qu'on connaît aujourd'hui, et on se dit que ben en fait finalement on est déjà bien peu de choses, mais surtout on n'a pas beaucoup évolué depuis ce jour-là. En fait, quand il y a un tyran, on essaye de fabriquer un deuxième tyran pour combattre le premier tyran en place. Enfin, c'est assez exceptionnel comme récit, et cette BD qui est dure à lire parce que justement le dessin est toujours des mêmes couleurs. Est une très bonne entrée en matière pour connaître l'origine du monde.
Oui, parce que la traduction sans dessin doit être encore plus dure à appréhender, peut-être.
Après, moi, du coup, j'ai lu un petit peu dessus. Les écritures qui sont en dessous des dessins sont assez fidèles au texte qu'on retrouve assez souvent. Enfin, c'est quand même un texte assez, assez lourd, assez, assez fort. Voilà.
Merci, c'est Valérie.
Ouais.
Chez
Actes Sud, Land 2. Ouais. Voilà, mais c'est super.
Ok, Popo.
Oui. Ok.
Popo.
Alors, du coup, tout à l'heure, Héloïse vous a parlé de Neil Gaiman. Et moi, je vais être un peu en repeat parce que je vais aussi vous parler de Neil Gaiman, j'ai le droit.
Oh non.
Oui.
Et en plus, j'allais commencer en parlant de son bouquin. Mais bon, là, je vais zapper le début de ma chronique puisque je vous disais que Neil Gaiman aime les dieux, les mythologies, etc. Qu'on le retrouve, voilà, dans toute son œuvre. Et alors moi, j'aime la mythologie grecque. Je pense qu'on est baigné dedans, Européens peut-être. Et par contre, je connaissais un peu moins les autres mythologies. Je connaissais quelques noms de dieux, etc., mais pas plus que ça. Et donc là, moi, j'ai lu un livre de Neil Gaiman qui s'appelle La mythologie viking, qui est paru au Diable Vauvert. Alors, à savoir que le titre original, c'était pas la mythologie viking, mais la mythologie nordique, puisque les dieux nordiques sont pas forcément vikings. Ça, c'est un peu Dommage, mais bon.
Par Odin, c'est vrai.
Bref, moi, ce que je connaissais des dieux vikings, c'était deux, trois noms. Et puis, j'ai vu Avengers et j'ai trouvé Thor tellement complètement idiot.
brut.
Voilà, j'ai vu le début de Thor et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas regarder ça. Thor, il est complètement idiot. Je passe. Et ben finalement, c'est pas de la faute de Marvel ou de qui que ce soit. Hein. C'est le mythe originel, en fait. Il est bien un peu stupide. Et en fait, ça, je l'ai découvert en lisant le texte de Neil Gaiman, qui est de qualité. En fait, il va reprendre les principaux mythes de la mythologie nordique sur donc Odin, sur Thor, sur Loki, qui est absolument fantastique. Loki, c'est un dieu. Enfin, moi,
c'est son frère, non, de Thor.
Ouais, c'est son frère rusé, un petit peu méchant, très filou. Ouais. Il est, en fait, il est extrêmement drôle, mais il est aussi parfois très méchant.
Mais drôle.
Bah ouais, moi je le trouve très drôle. Si tu prends le livre de Neil Gaiman, qui a beaucoup d'humour, en fait, c'est ça, un des grands talents de Neil Gaiman, je pense, c'est que il arrive à la fois à faire passer, bah voilà, ce benêt de Thor, qui est là avec son gros marteau, ses beaux cheveux blonds, enfin, il est risible, Thor, c'est très bizarre que ce soit un dieu. On n'est pas du tout habitué à ça. Et voilà, donc il arrive à rendre ça. Il arrive à rendre Loki, bah voilà, qui est très fin, qui est très rusé, qui va couper les cheveux de sa sœur pendant la nuit, enfin, qui fait des trucs absolument atroces. Et il les rend avec humour. Il faut aller lire les mythes pour le comprendre. Et il arrive aussi à rendre très bien la violence des dieux, parce qu'ils sont parfois aussi très violents. Il y a un épisode, ben notamment un des épisodes racontés par Neil Gaiman à propos de Loki, qui est d'une extrême violence et qui est raconté, on souffre pour Loki. Vraiment, je vous dévoile rien, parce qu'en fait, c'est 14 petits mythes qui sont racontés dans ce livre, de la naissance des dieux à la disparition des dieux, cet épisode, cette nuit qu'on appelle Ragnarok et qui est la disparition des dieux nordiques avant l'arrivée de l'homme. Et donc voilà, ces 14 petites histoires choisies un peu au hasard qui peuvent être lues. Bon, il faut lire la première en premier, la dernière en dernier, mais sinon il n'y a pas d'ordre particulier dans les autres. Et donc c'est très court et c'est des petits épisodes marquants de la vie des dieux finalement. Et donc il est Neil Gaiman est assez fidèle au mythe originel, comme il peut être, parce que c'est quelque chose qui est transmis oralement. Donc bon, ça évolue forcément, mais il a pas fait de folie, il n'est pas parti à côté complètement. Il est resté assez fidèle. La qualité qu'il a, c'est son écriture. Il sait être très poétique quand il parle de la création, par exemple, du monde, de l'apparition des dieux. Il a, voilà, c'est très beau, c'est assez merveilleux. Et puis c'est ce que je vous disais, il a de l'humour quand il faut, il est violent quand il faut, et sous une écriture qui paraîtrait très simple, parce que je pense que c'est un livre qui est extrêmement accessible. Il fait passer énormément de choses, c'est très riche dans l'écriture et c'est à lire parce que c'est une bonne porte d'entrée vers les mythes nordiques. Et Neil Gaiman écrit très bien, donc allez-y.
Super.
Ça doit être passionnant. Ouais.
C'était très très chouette.
Et inédit, enfin original, c'est vrai, oui, qu'on connaît pas trop. Quoi.
Ouais ouais, c'est bien pour rentrer dedans et puis ouais, vous allez rire, vous allez souffrir, vous allez passer par plein de sentiments, ça va être très chouette.
C'est un gros livre ou pas?
Non, je l'ai pas avec moi, je l'ai prêté.
C'est pour ça que je te demande.
Il doit faire 250 pages, je pense. Il est pas très très gros.
Ok. Il a écrit dans lequel d'abord c'est...
Alors, je dirais le tien.
Oui, c'est le mien d'abord parce que c'est le dernier en fait qui soit sorti en France, qui a été traduit en France, le livre que tu as présenté, La mythologie viking. Ouais.
Okay. Et c'est au Diable Vauvert.
C'est au Diable Vauvert, tu l'as dit. Ouais. Il ne sort pas beaucoup de livres, le Diable Vauvert, si?
Ben, c'est une petite maison d'édition.
C'est Alès, non? Nîmes?
À Vauvert.
À Vauvert, ben oui, Diable Vauvert.
Vers Nîmes, effectivement.
Oui, oui, c'est ça. Ok, tu veux que je finisse, je te laisse la parole ou...
C'est comme tu veux, après moi je vais parler un peu quand même parce que c'est aussi un coup de cœur que j'ai.
Allez, vas-y.
Tu peins? Ouais, ok, ouais, ouais, allez, vas-y. On y va. Donc mon livre s'appelle Cette nuit, c'est de Joachim Schnerf et c'est aux éditions Zulma. Donc petite question, est-ce que vous savez ce que c'est la fête de Pâques? Ce que ça signifie Pâques?
Pascal?
Oui.
on a tout mangé. Il n'y a pas une histoire de tout manger.
Je crois qu'il y a une histoire de lapin qui cache des œufs.
Ouais. Ah, tu manges tout le gras. Alors, après, tu jeûnes. Non, c'est pas dans ce sens-là.
Dans la religion chrétienne, en fait, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Voilà, c'est ce qu'on fait.
C'est pas la Pentecôte.
Ah, mais c'est ça que tu facile. Demandais. Ah, je savais.
Non.
Je crois qu'il y avait un
et
piège.
Et à présent, est-ce que vous savez ce que c'est Pessa?
La Pessa, ça c'est la fête juive qui est à peu près à la même période que Pâques.
Voilà, c'est la Pâque juive, effectivement. Mais on ne fête pas la même chose, on ne fête pas la résurrection de Jésus, effectivement. On fête et on se raconte, en fait, lors de cette nuit de Pessa, on se raconte l'exode pour sortir de l'Égypte du peuple juif. Voilà. Et donc, c'est un livre, on va parler donc de cette fête fabuleuse, où les familles se réunissent et parlent et se racontent des histoires toute la nuit, ont des petits rituels vraiment super, on mange des aliments autorisés mais qui ont l'air vraiment très bons, on allume certaines bougies, à un moment donné il y a les enfants qui doivent cacher le pain traditionnel et le patriarche doit faire semblant de le chercher pendant des heures et après il négocie avec les enfants. Pour savoir où est la cachette, en échange de cadeaux. Enfin, voilà,
c'est... Parce d'alcool. Que tu n'as pas le droit d'avoir d'aliments, parce que quand les Juifs ont quitté l'Égypte, en fait, ils n'ont pas eu le temps de laisser gonfler leur pain. Et c'est pour ça que le pain était plat. Et donc, à la fête de Pessa, tu n'as pas avoir d'aliments, enfin de
biscottes. Cuit. Non, tu manges cru.
Non, tu n'as pas de pain, tu n'as pas tous les aliments à base de...
Saurais sushi.
Fermenté,
voilà. Oui, des fermentations, etc. Donc, oui, c'est interdit, oui, voilà. Effectivement. Mais n'empêche, ça a l'air vraiment très bon.
Mais tu manges autre chose, du coup.
Et du coup, c'est vrai, tu m'apprends quelque chose, c'est tu dis Pessa et moi.
Je sais pas si c'est là. C'est peut-être comme en français, tu sais. Moi, je dis maintenant. Il y en a qui disent
maintenant. Demandez à Popo, elle invente. Elle pourrait nous dire.
Popo, tu dirais comment?
J'ai juste pu supposer, là. J'ai été ridiculisée tout à l'heure.
Non, donc bref, voilà, c'est cette fête de Pessa. Donc il y a les mêmes rituels, etc. Mais vous imaginez bien comme notre Noël à nous, c'est différent en fait en fonction des familles. Et toutes les familles en fait ont leur Pessa traditionnel, effectivement. Et donc là, on va passer la fête de Pessa avec le patriarche Salomon et donc sa famille qui est vraiment haute en couleur. Donc tout commence en ce matin de Pessa. Salomon se réveille, il s'apprête à préparer tout, la cuisine, etc., la table, les bougies, les textes, etc. Mais c'est un péché assez spécial pour lui parce que c'est le premier qui passe sans sa femme, Sarah, qui est morte, qui est décédée dans l'année. Voilà, donc Salomon...
Ça fait deux fois où es-tu la femme du héros dans ses livres.
Ouais, c'est étrange. Ouais. Je pense qu'elle fait exprès de... Je sais pas pourquoi, mais...
Et du coup, en ce matin assez spécial, il se remémore, en fait, avec une certaine nostalgie, tous les péchés précédents qu'il a passés avec Sarah. Bah, c'est fait quand même 50 ans, en fait, qu'il était avec elle. Il se remémore tout ça, en fait. Et donc, ça donne des anecdotes parfois graves, parfois très joyeuses, parfois vraiment ridicules, parfois hilarantes. Enfin, voilà. Toutes les petites anecdotes... qu'on peut se raconter en famille, ah bah, tu te souviens cette fois-là où l'oncle avait fait ci ou machin. Donc c'est exactement ça. Et donc je vais vous donner un petit portrait de la famille quand même de Salomon. Donc il a ses deux filles qui ne s'entendent pas du tout. Il y en a une qui est toujours en colère et qui crie sur tout le monde et qui en veut au monde entier. L'autre du coup bah, qui est un peu plus en retrait, qui plonge dans l'alcool parce qu'elle essaye de se cacher de sa petite sœur. Après il y a le mari de la première, donc qui est un grand stressé. Si stressé que dès qu'il y a le moindre malaise, en fait, il est victime de diarrhée nerveuse.
Oh merde, pardon.
Valérie, on n'a dit pas de calembour, pas de jeu de mots.
Tu n'as pas fait exprès. T'as pas coupé mon micro aussi.
Non.
Donc, il y a le mari de la seconde qui est très fort en gueule, qui est très gentil, mais qui est toujours enclin à faire la mauvaise blague de mauvais goût au mauvais moment, voilà.
Valérie.
Il y a les petits-enfants qui sont des vrais ados rebelles et qui peuvent se ramener par provocation avec un chèche palestinien à la fête de la Pessa. Et après, il y a Salomon qui est donc le patriarche et qui est un rescapé d'Auschwitz. Et qui, pour éviter d'en parler et de trop y penser, fait des blagues absolument immondes et très douteuses, en fait, sur les chambres à gaz et tout ce qui peut aller autour. Et donc, ça met tout le monde très mal à l'aise, surtout quand il y a la petite correspondante allemande de la petite fille qui est là, à table. Voilà, donc ça vous donne un petit portrait, en fait, de cette famille absolument fabuleuse. Et c'est des souvenirs et des moments de vie qui s'enchaînent naturellement au fur et à mesure des pensées de Salomon. et on suit tout ça avec un réel bonheur. Et pour finir, voilà, c'est un livre qui est très drôle, mais c'est aussi un magnifique roman d'amour, quoi. C'est une ode, un chant magnifique à sa femme. Et il y a des moments vraiment absolument magnifiques. C'est très, très beau, très lyrique, vraiment fabuleux, dans une écriture magnifique. Voilà.
Tu peux nous dire un mot de plus sur l'auteur ?
Alors, l'auteur.
Si tu.
Je vais te dire.
C'est un peu son histoire.
Il est né en 1987 à Strasbourg. Oui, donc ça doit être son histoire parce qu'en fait, c'est une famille juive qui vit à Strasbourg.
C'est là où je voulais en venir. Ouais. Est-ce qu'il se base sur des choses qu'il a vécues, du vécu ou...
Il nous fait être son grand-père, Salomon.
Oui.
Peut-être.
Bah oui, parce qu'il est en 82, enfin, moins qu'il ait 8 ans.
Sans doute, oui. Il y a sans doute une part, effectivement, de vécu. Et si ce n'est pas lui, je pense qu'il aussi, en parlant avec d'autres familles, etc., je pense qu'il a pris le meilleur de ce qui puisse se passer dans ces fêtes-là de famille. C'est très beau et c'est vraiment génial.
Super.
Donc c'est un énorme coup de cœur. Et okay. On découvre la religion juive aussi, moi, que je ne connais pas trop, finalement. Mmh.
J'ose plus présenter mon dernier livre.
Ça fait mal, là. Vas-y, la transition.
Je savais qu'il fallait que je parle avant, Héloïse.
Tu aurais dû commencer avec ton livre. T'as pas voulu, t'aurais mis la barre très bas. Enfin, à un niveau de la ceinture.
Mais non, mais il a l'air très drôle, ton livre aussi. Oui.
Allez, je me lance. Oubliez totalement Jules Ferry.
Non, mais là, c'est sûr.
Et tous les autres aussi.
Enfant de moins de 18 ans, allez vous coucher, c'est l'heure de la sieste.
Non, 16 ans, à partir de 16 ans, c'est pas mal. Alors, non pas parce qu'on va parler d'Égypte et non plus de Grèce, quoique, mais parce que déjà l'histoire n'est pas strictement respectueuse des textes fondateurs et originels. Même si l'auteur se base sur des récits, il prend quelques libertés. Alors, Panthéon évoque et se focalise en grande partie du livre sur la rivalité entre les dieux égyptiens Seth et Horus. Seth qui est le frère d'Horus, Seth qui est le dieu de la confusion, du désordre, de la perturbation, et on apprend dans ce livre le dieu des bites, pardon, excusez-moi. Car dans la vraie histoire tirée des hiéroglyphes, la nature brutale de Seth se manifeste plus particulièrement dans un comportement sexuel agressif, tant homosexuel avec Horus qu'hétérosexuel avec de belles déesses qu'il poursuit de ses assiduités. Mmh. D'où...
Et donc, voilà. C'est souvent des animaux, les dieux égyptiens. Seth, c'est quoi comme animal ? C'est un chien ? Un chacal ?
Alors, Seth, dans c'est un genre de...
Dingo.
C'est un genre de dingo. Enfin, tête de dingo, mais en fait, suivant les hiéroglyphes, il peut prendre plusieurs formes. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. Horus, c'est pareil. On sait juste qu'il a un œil qui représente le soleil, un second la lune, et qu'il a un bec d'oiseau.
Un oiseau, ouais.
Voilà, c'est ça. Alors, Hamish Steele, l'auteur de ce livre, nous raconte le commencement de l'ère égyptienne. Donc, persuadé qu'il est temps de laisser les humains se débrouiller seuls sur Terre, Ré, le dieu du soleil, embarque toute sa famille à Duat quand il est soudain pris d'un doute, je cite, il nous dit dans ce livre, « Peut-être bien qu'on ne devrait pas les abandonner complètement, sans nous, ils vont pas tarder à se foutre sur la gueule en notre nom. » Alors, il a l'idée brillante de confier le trône à Osiris, avec comme recommandation solennelle de ne pas trop foutre le bordel. Mais c'était sans compter sur la jalousie de Seth, le frère d'Osiris, décidé à éliminer son frère et à prendre sa place sur le trône, entraînant le panthéon égyptien dans une lutte de pouvoir aussi drôle que délirante. Donc, c'est l'histoire de ce combat, la véritable histoire égyptienne de ces deux dieux au cours d'une lutte. Seth arrache l'œil de son adversaire qui, en retour, le blesse au testicule. Donc ça, c'est les hiéroglyphes qui le disent aussi. Ah. Mais c'est du pain béni pour notre auteur, Hamish Steele, cette histoire. Donc, le dieu Horus veut se venger de son oncle Seth qui a dézingué son père. Et c'est ainsi que commence la grande guerre entre les divinités. Du coup, attention, Panthéon contient des incestes, des décapitations, de la nécrophilie, une sauce suspecte, des bagarres d'hippopotames, plein de scorpions et un zizi en or.
Golden Goat.
C'est ça. Donc, Hamish Steele, auteur anglais, revisite et dépoussière les histoires de la mythologie égyptienne d'une façon très drôle, violente parfois, vulgaire aussi. Le langage employé est familier, donc pas question de présenter l'Égypte sous cette forme à tes élèves, Popo. Tu peux oublier.
Pas cette fois.
Non, le dessin, c'est un peu des cartoons. C'est cartoonesque, c'est très agréable. Des pages sont épaisses, des chapitres courts, de l'humour, tous les ingrédients pour passer un bon moment. Héloïse, tu as une question ?
J'ai une petite anecdote sur ce livre parce que je ne l'avais pas feuilleté quand je l'ai reçu à la librairie et je l'avais mis au rayon jeunesse.
Non !
Et mon stagiaire de 3e à l'époque me dit « Héloïse, tu sais ça, je pense qu'il ne faudrait pas le mettre là. » après l'avoir lu. Donc voilà.
Mais voilà, on dit que les stagiaires servent pas à grand chose de troisième. Et ben,
moi, la première page que j'ouvre, j'ai dit la première planche, c'est Atum a éjaculé Chou et Tefnou qui ont parcouru la terre et créé l'air et la pluie.
Oui.
C'est un peu chantant,
malgré tout.
C'est un peu chantant.
Mais par contre, ça s'inspire quand même de la vraie mythologie égyptienne.
Oui, oui, absolument.
Des vrais mythes.
Après, c'est à l'histoire contemporaine. Ils sont un peu désinvoltes. Ils parlent familièrement. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. Pouh, qu'est-ce qu'on se fait chier? Ils sont sur le trône, les pharaons. Bon, allez, si on va faire une fête, on invite Seth. Non, non, mais attention, Seth, il va t'avoir. Il crée toujours des problèmes. Mais si, comme ça, on pourrait s'excuser. Et là, Seth arrive à Osiris. Il dit, tiens, j'ai une boîte. Qui c'est qui veut rentrer dedans? Et celui qui rentre dedans, il gagne la boîte. Donc, Osiris, il dit, waouh, génial, une boîte. Je vais rentrer. Alors, la femme d'Osiris lui dit, non, non, je pense que c'est un piège. Il dit, mais non, t'inquiète pas. Donc, il rentre dans la boîte. Et là, il le balance dans le Nil. Donc c'est la vraie histoire où il est pas comme ça,
mais
il a pas balancé lors d'un jeu. Voilà, donc
mais est-ce que tu as aimé du coup?
Ah oui, j'ai beaucoup aimé, très drôle, j'ai ri à plein de moments. Non, c'est extrêmement drôle. Bon. Donc pour il fait des dessins animés, il travaillait dans un grand studio de dessins animés, cet auteur, et il a fait un lancement participatif pour sortir ce livre. Donc il a fait un petit clip, vous pouvez le voir sur internet.
C'est encore en cours?
Ben non, vu que ça y est, il a édité, donc il a réussi à avoir son financement participatif. Et rien que le clip, on voit déjà l'image de ce que va être l'ouvrage, l'esprit. Et donc, ça a très, très vite marché. Et du coup, ouais, c'est un beau livre. Les pages sont bien cartonnées, enfin assez grosses. Des beaux dessins, c'est court, donc on n'a pas le temps de s'y perdre. Ça se lit, mais vraiment, vraiment facilement.
Et c'est au seuil.
Et c'est au seuil, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, raconte-nous ce que tu as.
Non, mais je me dis, il ne peut pas y avoir que du sexe dedans. Puis j'ouvre une page, c'est « Et si on baisait ?»« Prends-moi, je suis le Vélociraptor du sexe. »« Seth, t'es mon oncle !»« Et tes parents, et tes frères et sœurs ?»
Et oui, parce que dans les mythologies égyptiennes, ils sont tous frères et sœurs, mais comme les Grecs, hein, d'ailleurs.
Non, mais on ne va pas s'embêter avec des détails comme ça. Ok, on peut tirer un coup vite fait. Oui, mais tu dois me filer un truc. Un truc bien gros et bien dur. Tu dois me donner un peu de ton pouvoir.
Voilà. Ouais. Il va falloir que tu le prêtes à Valérie.
C'est un piège en fait que Seth tend à Horus.
Elle va oublier le chant des pierres là pour sa soirée conte et elle va lire ça. Quand t'es
fabuleux.
J'ai un conte, un nouveau conte. Jeudi au Buisson. Allez-y, jeudi au Buisson, ça va être énorme.
Ça va être le Panthéon.
Et ouais, c'est ça, c'est le Panthéon.
Mais on a bien rigolé en tout cas.
Ouais, on a bien rigolé.
C'était étonnant vu le sujet, mais voilà.
On va bien voyager dans 15 jours.
Oui.
On va atterrir du côté
de l'Amérique latine, Amérique du Sud.
Allez, parfait. Ne fais pas cette tête, Bobo.
Mais pour l'instant, moi, je plane. J'ai commencé mon bouquin et ça.
C'est bien.
C'est particulier. Une dictature, on verra dans 15 jours. Et non, même
non
pas.
Et non. C'est fini cette année, les dictatures pour Bobo.
Nouvelle série. C'est Héloïse et les maris morts ou les femmes mortes.
Ouais. Allez, ciao les filles. À
bientôt.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.